BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la chasse aux rentiers a commencé, alors planquez-vous, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine sur l'économie, sur la finance, sur les placements et évidemment sur votre argent, et on va se projeter pour les semaines et les mois qui viennent. Sans surprise, aujourd'hui, le mot de la semaine, ça sera la rente. C'est probablement le mot qui m'a le plus énervé depuis trois jours. La question macro que je me pose, j'ai pas de réponse. C'est pour ça que je vais la poser ici. Pourquoi les matières premières comme le pétrole et l'or montent et pas que le cacao, le café, le chiffre de la semaine, la croissance? Bah oui, hein, surtout aux États-Unis, elle fait plus que résister. Alors qu'ici, on a annoncé ici, nous-mêmes, hein, on va en reparler. On a annoncé que la hausse des taux, à un moment, allait freiner la croissance. On voit rien de tout ça aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? En deuxième partie de l'émission, la bourse, un petit affaiblissement en fin de semaine. Est-ce qu'on est mûr pour une phase de correction, on va dire, de 5 à 10%. La question d'argent, quel est le placement de la semaine? Le top ou le flop de la semaine, vous savez ce que c'est? C'est un événement, une personnalité ou une institution qui a fait l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Et on peut pas prendre toujours en flop la BCE. Le top 3 des gérants 2024 et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Bah oui, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. Quand j'ai le sourire, c'est qu'il va y avoir des présentations musclées. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui, il est unique en son genre, unique. Économiste de talent, culturiste, éleveur de chats, barbier à ses heures perdues. Christopher Demick, vous êtes presque normal aujourd'hui. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vrai, c'est pour vous faire honneur.
Non, vos nouveaux patrons, ils vous ont mis un... C'est fini, les crêtes, Ouais, d'accord. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, ils sont gentils avec vous?
Très, très.
Depuis le 16 octobre 1793, jour de la mort de Marie-Antoinette, sa marraine, il n'a eu de cesse que de rétablir la royauté. C'est fait, il règne maintenant sur le monde du cloud. Louis de Montalembert, vous êtes toujours régent de Pléiade AM.
Vous êtes de plus en plus doué, Marc.
Je sais. Elle a passé avec succès, et pourtant on a été dur, hein, son premier bizutage, et nous avons le plaisir de la recevoir à nouveau aujourd'hui. Stéphanie Moget, vous êtes gérante de portefeuille à la financière d'Uzès. Un plaisir de vous revoir.
Merci, Marc.
Non, normalement, vous dites un plaisir partagé, mais... Non, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Écoutez-le, suivez-le sur les réseaux sociaux, lisez-le et vous comprendrez enfin tout à l'économie. L'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants. Denis Ferrand, vous êtes directeur général de Rexecode. Et là, on a l'impression que pour une fois, vous avez un peu travaillé cette semaine.
Oui. Petit peu d'activité, oui.
Vous avez organisé quoi?
Un petit événement avec 400 personnes pour parler de est-ce qu'on peut concilier la transition énergétique avec la croissance? Oui.
D'accord, mais c'était pas la peine. Vous m'invitez, ça dure deux minutes, je vous dis non et on passe à autre chose.
Mais justement, la prochaine fois, on va faire un débat contradictoire.
Y a pas de débat en fait. Il ne peut pas y avoir de débat contradictoire. La réponse est non.
C'est pas gagné.
Sans argent public, il faudra faire du déficit. Non, vous n'êtes pas d'accord,
non,
avec
non,
ça.
Non, je suis pas d'accord.
Je le chauffe, mais il a pas envie de se lancer sur le sujet. Allez, le mot de la semaine qui m'a énervé, c'est rente. Bah oui. Je me suis dit, quelle musique mettre? Bah, l'international, ne cherchez plus,
Vous vous sentez visé, c'est pour ça.
Bah, évidemment que je me sens visé, mais tous les Français se sentent visés, Louis de Montalembert. Ne cherchez plus, on a trouvé le coupable. Alors, si les finances publiques sont en déroute, ce n'est évidemment pas du tout de la faute du gouvernement. Il n'y a pas de problème de gestion des dépenses publiques, non. En fait, c'est la faute des rentiers. Le gouvernement a donc décidé de lancer une chasse à la rente. Alors, c'est très étonnant parce que Gabriel Attal dit on va monter la énième commission, on en a vu des dizaines, qui va travailler sur la taxation des rentes sans aucune précision. Ça vous a inspiré quoi, Christopher Demick? Qu'est-ce qu'on entend déjà par rente? Qui est visé, en fait?
Effectivement, une rente, c'est finalement assez large, si on revient sur ça. Il faut remonter d'ailleurs au XVIIe siècle pour que le mot rente soit négatif et soit justement dans cette vision expropriation. Et c'était François Quesnay à l'époque qui l'avait mise en place, où on disait finalement, vous avez une classe de propriétaires qui profite finalement de la classe productive. Et on est un peu dans cette logique-là de la part du gouvernement. C'est-à-dire, on aurait une partie de la population, pour X ou Y raison, qui profite du système, qui a finalement un retour sur investissement qui est indu. Et donc, vraiment, vous avez une vision un peu marxiste-communiste.
Cette musique, elle est horrible.
Bah, malheureusement.
C'est-à-dire, c'est d'un côté, il y a les gens qui travaillent, et d'autre côté,
exploités.
Pour reprendre Mitterrand, c'est les autres qui, avec l'argent qui dort et qui rapportent de l'argent.
Exactement. Alors que c'est pas du tout ça. Quand on voit un peu la démarche du gouvernement, grosso modo, le sujet de rente, ça va aller sur les super profits. Ce qui est un autre, d'ailleurs, finalement, une autre définition. Ouais. Mais les super profits.
Et ils ont pas dit ça. Hein. Ils ont dit taxation de la rente.
Oui, mais la présidente de l'Assemblée nationale.
C'est le nom de. C'est
exactement. Nom, mais la présidente de l'Assemblée nationale laisse entendre, ça pourrait être les super profits. Et d'ailleurs, même sur les. Aussi bien sur la rente que sur les super profits, il y a une erreur. Déjà, sur la rente, aujourd'hui, on n'est pas sur une société de rente. Ils ont déjà fait le nécessaire sur l'immobilier, qui était un peu un sujet. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut aller au-delà. Et sur les super profits, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces super profits, comme ils disent, ne sont pas indus concrètement. C'est tout simplement derrière cela. Dans une société capitaliste, vous avez une demande et il est logique que, potentiellement, à un certain stade, vous ayez des sociétés qui bénéficient de cette demande.
Mais vous êtes sûr qu'ils ne visent que ça ? C'est-à-dire, vous vous dites, c'est l'immobilier et.
À mon avis, on ira à la toute fin, parce que vu la situation budgétaire et vu la faiblesse de la croissance, on ira à la toute fin sur une hausse de la fiscalité pour les entreprises. On est déjà à un niveau de prélèvement obligatoire.
Pour les entreprises.
Pour les entreprises.
Moi, je pense que ça sera pour le patrimoine.
Ah, ce sera certainement le patrimoine, mais à un certain stade, vous avez jusqu'en 2027. Hein. Ouais. Et le déficit, a priori, on aura les agences de notation qui vont sévir, va pas se résorber significativement d'ici 2027. Mais dans tous les cas, vous allez viser le patrimoine et les entreprises, parce que fondamentalement, aujourd'hui, le gouvernement a deux leviers, deux autres leviers. C'est soit on crée de la croissance, mais bon, on sait bien, c'est une belle discussion, ça va pas venir du jour au lendemain, soit finalement, on fait de l'efficacité de dépenses publiques. Mmh. Mais malheureusement, manifestement, c'est jamais, alors que ça devrait être la bonne voie, c'est jamais le sujet qui est mis en avant. Donc, dans tous les cas, cette fameuse courbe des prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB va continuer à progresser et malheureusement à certains stades, vous nuisez à tout le dynamisme potentiel de l'économie française.
La rente, c'est donc le revenu du capital. C'est bon, par définition, si on regarde Larousse, c'est la première définition qui sort. Ça vous inspire quoi qu'on dise on va taxer la rente ?
C'est vrai que c'est l'exception, on va dire, très balzacienne.
Oui.
C'est vraiment celle que l'on a comme représentation, c'est-à-dire le capital qui dort et qui génère un revenu. Mais en fait, la rente, c'est quelque
chose...
C'est le parasite, c'est cette représentation. Mais moi, ça m'inspire quand même deux choses. Un, c'est déjà, si c'est vraiment cette exception-là à laquelle il faut penser, ça veut dire qu'on est complètement en rebours de ce qui a été fait dans le premier quinquennat.
Oui.
Le premier quinquennat, c'était justement la fiscalité du capital qui était aplanie avec la mise en place du PFU. Sauf l'immobilier, effectivement, mais c'est effectivement, je rejoins ce que disait Christopher, mais on a mis en place un dispositif qui était incitatif à la rémunération du capital, ou en tout cas incitatif à l'investissement. Là, ça veut dire que dans ce cas, on ferait peut-être quelque chose, on détricote un petit peu ce qui était fait au premier plan. Et puis, il y a une exception qui doit être beaucoup plus large de la rente. Est-ce que la rente, c'est uniquement associé aux revenus du capital, ou est-ce que vous n'avez pas dans l'économie des rentes de monopole qui peuvent exister ? Vous avez des rentes qui sont procurées par des professions réglementées, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant à regarder. Parce que quand on regarde la situation de l'économie française, et là je reviens sur ce que Christopher disait à propos de la croissance, quand on regarde la manière, une des manières de redistribuer du pouvoir d'achat, c'est peut-être de libérer l'économie aussi. On a un niveau de prix qui en France est supérieur au niveau de prix que l'on a en Allemagne. Je ne parle pas de l'inflation, je parle du niveau de prix. Et parmi ces éléments qui contribuent au fait qu'on ait des prix plus élevés, il y a aussi le fait qu'on a beaucoup plus de professions réglementées qu'il n'y en a en Allemagne. On a moins de concurrence dans un certain nombre
donc
de professions.
Donc vous prenez la rente sous l'exception, comme on s'est attaqué un moment en disant la rente des taxis.
Ben voilà, quand vous créez des rentes de monopole sur certaines professions, ben vous empêchez des nouveaux entrants et vous empêchez l'expression de la baisse du prix qui va procéder de l'arrivée d'innovation.
Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que le premier incitateur à la rente, c'est le gouvernement. Parce que l'autre définition de la rente, c'est un emprunt d'État.
Oui.
Et donc aujourd'hui, celui qui crée des millions de rentiers et sans lesquels il pourrait pas vivre, c'est le gouvernement.
De toute façon,
un peu paradoxal, non ?
À l'époque de Balzac, c'était déjà le cas. C'était déjà c'était celui qui détenait des titres d'État. Et bien là, on en reviendra à la même chose. Et est-ce qu'on va taxer plus ? Je ne suis pas certain.
Louis de Montalembert, vous sentez visé, vous qui ne travaillez pas et gagnez de l'argent.
Moi, je suis un modeste travailleur, donc pas du tout. Mais je trouve
gagner de l'argent dormant.
Je trouve que ce débat lancé par le gouvernement d'une paresse intellectuelle absolument abyssal montre bien que le nouveau gouvernement ou le nouveau Premier ministre est dans des effets de manche et de la communication et que on parlait de l'immobilier tout à l'heure s'il s'agit de taxer des rentes comme on dit, ben on a réussi à tuer le secteur de la construction en France où aujourd'hui il y a un manque de logements, donc une paupérisation parce que ce sont les populations les plus pauvres qui supportent l'effet, c'est pas du tout surtout les rentiers. Les rentiers, ils arrêtent d'investir dans l'immobilier quand c'est taxé comme ça. Donc, va-t-on s'attaquer aux entreprises demain et donc à l'investissement? Ah, c'est pas bien de toucher des dividendes.
Oui, parce que c'est exactement. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Pour une fois, le dividende est considéré comme une rente.
Mais la taxation du dividende, toutes ces questions, même autour des rachats d'actions, sont une absurdité fondamentale. Qu'est-ce que fait une entreprise quand elle verse des dividendes ou qu'elle rachète ses actions? Elle redistribue du capital dont elle n'a pas besoin pour son activité, qui va donc dans la poche de gens qui vont le réinvestir dans des entreprises qui ont besoin de ce capital pour se développer.
Vous avez compris que dans l'image publique en France, l'actionnaire est un rentier. Vous avez compris ça?
J'ai bien compris ça, mais à ce moment-là, autant abolir le capitalisme.
Oui.
Hein, et venant d'un gouvernement qui se veut libéral, c'est une absurdité.
Stéphanie, vous qui permettez aux rentiers de s'engraisser, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que déjà le capital est beaucoup plus taxé en France qu'ailleurs et qu'on va augmenter cette taxation au moment où on va avoir besoin, au contraire, d'investissements de plus en plus importants dans certains sujets comme la transition énergétique, enfin comme bien d'autres, hein, comme l'IA, comme des sujets majeurs pour les années à venir. Donc oui, c'est encore une fois une logique un petit peu facile du gouvernement. On pourrait aussi parler peut-être des retraités comme des rentiers, hein, ça c'est
absolument
un autre axe.
Non, mais de toute façon, c'est la même musique. Hein.
Mais bien sûr.
Retraités, actionnaires d'entreprise, enfin on a compris, dans la musique du rentier, c'est en fait tous les gens, et puis très franchement, c'est pas que les rentiers, les retraités, c'est aussi, il va y avoir...
C'est les pauvres aussi, avec la loi sur le chômage, qui sont les rentiers pour le gouvernement.
Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'ils ont été obligés quand même de préciser le lendemain que l'assurance vie et le livret A n'étaient pas ciblés.
La rente ultime.
C'est-à-dire que le livret A, on peut considérer que le livret A, c'est une rente, non?
Oui ou non? Oui, effectivement, en tout cas, je le mettrais beaucoup plus spontanément dans la catégorie des rentes que le dividende ou que les chômeurs.
Oui, parce qu'il y a un risque en face du dividende, alors que le livret A...
Oui, mais en même temps, quand vous avez des membres du gouvernement, quand ils font leur déclaration de patrimoine, qui investissent dans quasiment aucune entreprise, et les rares parlementaires qui investissent dans des entreprises,
ils sont présentés
comme le diable, bah, ils comprennent... Je ne sais pas si j'ai beaucoup de respect pour la fonction politique, mais quand vous interrogez des membres de la commission des finances, qui normalement sont les plus compétents au Parlement et qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un dividende, je pense que ça peut interroger.
Le fait qu'il n'ait pas d'action, c'était aussi pendant très longtemps pour éviter tout conflit d'intérêts qui pourrait intervenir.
Oui, pendant très longtemps. Oui, après les conflits d'intérêts...
Aujourd'hui, c'est vraiment pour ne pas apparaître comme étant actionnaire. Vous qui avez vécu cette période, vous sentez les prémices d'une révolution?
Écoutez, oui, un petit peu, quand même. J'ai des murs très hauts dans mon château. Donc,
allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. Je me pose la question. Oui, l'or, le pétrole, le cacao, le café, toutes les matières premières flambent, alors que la Chine se réveille à peine, que l'Europe est proche de la récession et que seuls les États-Unis tournent. Pas à plein, c'est pas non plus à surchauffe. Hein. Comment on explique ça? Alors, le contexte géopolitique, sûrement?
Alors, il y a un peu de contexte géopolitique, mais je pense que quand même le diagnostic doit être un peu plus raffiné, parce que vous avez quand même beaucoup de...
Alors celle-là, elle est directe.
Bon, raffiné, c'était pour parler du pétrole.
Non, mais j'ai compris. J'aime bien vous... Franchement, là, vous m'avez chauffé, là. C'est bon, là. J'ai plus besoin de rien, c'est bon.
Donc, c'était pour parler du pétrole.
Bien sûr.
Et en fait, le pétrole, on sort d'une période pendant laquelle on a sous-investi en termes d'exploitation. Quand en 2020, on a eu une chute de 35% de l'investissement dans le pétrole. On sait qu'il faut 4 ans, 5 ans pour qu'on voit la traduction de cette absence d'investissement en termes d'offres.
Donc, qu'on y est là.
Donc là, on est dedans. Donc là, vous avez des déterminants qui sont un peu l'ombre portée de ce qui ne s'est pas passé pendant plusieurs années. Ça, c'est quelque chose qui est de nature plus structurelle, sauf si, parce que le prix fait son effet signal, vous avez les investissements qui repartent. Okay. Et il y a quand même des investissements en exploitation qui sont repartis. Mais quand vous regardez aussi certaines matières premières, par exemple le blé, le maïs, on a totalement effacé la hausse qui était intervenue au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Donc on n'a pas une vision qui est très homogène en réalité sur les matières premières. Vous avez en fait à chaque fois des circonstances très particulières, on le voit sur le cacao.
Un problème matière première en général, c'est spécifique, c'est le cacao.
Exactement. Et puis.
C'est le café.
Et c'est pas la spéculation aussi. Il faut tendre le bras, je pense, à cette spéculation. S'il y a une accélération des hausses de prix sur certaines matières premières, le cacao en premier lieu, c'est parce que la spéculation, en fait, peut se mettre sur un déséquilibre fondamental de marché. Elle accentue le déséquilibre, mais elle n'est pas à l'origine du déséquilibre de marché. Et donc, on est vraiment sur des situations qui sont très particulières à chaque fois.
Si on suit le raisonnement de Denis, et qu'on dit bon, c'est spécifique à chaque matière première, qu'est-ce qui explique la hausse de l'or alors?
Alors vous avez ce qu'on met un peu en avant d'une manière erronée, c'est
soyez raffiné.
Bah, j'essaie toujours. Je suis même habillé, vous avez vu.
Je pense que c'est sa montre qui explique le. Ouais.
Non, mais ça, c'est le côté bling-bling. Mais sinon, au-delà de ça, sur l'or, vous avez souvent, vous met en avant, oui, c'est le risque, la crainte sur les États. J'ai vu certains analystes revenir avec ça, souvent très direct, c'est pas du tout ça. Il faut regarder qui achète sur le marché. Aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui ont un rôle de market maker sur le marché. C'est bien qu'on parle de l'or. Il y a eu deux jours de ça, les chiffres d'achat net des banques centrales qui ont été publiés au niveau mondial. Février, plus 19 tonnes d'or. En 2023, on était sur un record, plus 650 tonnes d'or. Ça fait quand même monter.
Pourquoi elles achètent?
Pourquoi
les banques centrales achètent de l'or?
Vous avez deux stratégies. Vous avez la stratégie qui est un peu à la chinoise, c'est-à-dire on est des dollarisations et on fait ce qu'avait fait la Russie à partir de 2015 parce qu'on se dit, bon, ça peut être compliqué si la situation géopolitique devient un peu plus néfaste. Et le deuxième acheteur de tonnes d'or en 2023, c'est la Pologne. La Pologne, bien sûr, c'est pas la dédollarisation, c'est pas le sujet, mais ils sont sur une gestion fine des réserves de change. Et d'ailleurs, vous regardez, les banques centrales aujourd'hui intègrent aussi, dans des parts très infimes, des devises émergentes et c'est plus uniquement le dollar et l'or. Donc c'est vraiment une gestion un peu comptable. Et ça, ce mouvement va perdurer. L'autre facteur qui est structurel.
Ce mouvement va perdurer pour vous, la hausse
pour les
de
banques
l'or.
La hausse de l'or liée aux banques centrales, c'est très clair, ça va perdurer. Okay. Et rapidement, vous avez un autre phénomène qui est toujours en Asie et qui est les achats de la part des, tout simplement des investisseurs chinois qui achètent beaucoup d'or au lieu d'acheter des actions. Et aussi, structurellement, aussi, l'Inde est un acheteur important d'or, mais pour du retail.
Et bientôt, il y aura les rentiers qui en achèteront. Si on leur promène ton sur,
ils iront.
Forcément.
Ouais. Stéphanie, dans votre gestion privée, puisque vous avez pas mal de gestion privée. Est-ce que vous intégrez les matières premières ?
Un peu par le biais de trackers. C'est vrai qu'il y a des clients et c'est souvent peut-être des classes d'âge un peu plus âgées qui veulent
vous
de l'or.
Regardez, non ? Ça devient gênant entre raffinés, quelqu'un qui prête de vieillard. Enfin, bon, ouais.
Quand vous aurez les plus jeunes qui effectivement auront plus envie d'avoir des ETF sur les cryptos, je pense que effectivement c'est un peu deux mondes différents. Mais sur l'or, effectivement, je pense qu'on a vraiment le sentiment de se protéger contre de l'inflation. Et vous voyez certains pays à forte inflation où les gens vont tout de suite changer leur salaire en or. Et c'est le bas de laine. On se garde ça comme réserve et ça permet.
Et pourtant, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on est plutôt en période de baisse de l'inflation. Donc on aurait pu se dire que le côté valeur refuge. Donc c'est
sur le long terme, je suis pas d'accord sur le fait que c'est vraiment un pare-feu contre l'inflation sur le long terme. Donc
allez, on passe tout de suite aux chiffres. Vous avez quelque chose à dire sur l'or? Non, rien.
J'ai toujours des trucs à dire.
Non, mais on passe aux chiffres de la semaine. La croissance. Alors, Big Flo et Oli nous disent qu'on comprendra plus tard, mais moi j'aimerais comprendre ici même. On expliquait, moi y compris, je me trompe toujours, mais ça c'est pas grave, qu'il fallait 18 mois pour qu'une hausse de taux affecte l'économie. Et ça arrivait. On avait fait le calcul. 18 mois, c'était à peu près maintenant. On évoquait même le risque de récession, notamment aux États-Unis. En fait, rien de ce qui s'est dit ici ne s'est produit. Christopher, comment on explique ça?
Il y a deux phénomènes pour l'économie américaine. Un, sur le marché de l'immobilier, en fait, on avait la vision que le marché de l'immobilier était surtout dépendant de taux qui étaient flexibles. En réalité, plus de 90% des taux sont fixes. Alors, bien sûr, pas les mêmes échéances qu'en Europe. On n'est pas sur du 20 ans fixe, etc. Et l'autre phénomène, c'est si vous regardez aussi bien les créations d'emplois que le chiffre révisé de la croissance au T4 2023 pour les États-Unis, on voit quand même une contribution très importante du secteur public, et derrière cela, bien sûr, c'est le fameux déficit qu'on a évoqué, l'IRA, bien sûr, et tout ça fait que vous avez une économie américaine qui surperforme. Je le rappelle quand même, le chiffre de la croissance au T4 révisé en hausse, 3,4%.
Oui, mais l'effet des taux d'intérêt, moi je pensais qu'il allait avoir un sort de mur, ces fameux 18 mois, et que là on allait
Les consommateurs américains, bien sûr, bénéficient de l'épargne Covid qui est quasiment consommée. Deuxième point, il est moins réceptif du fait du marché de l'immobilier. On n'a pas tant de prégnance des taux flexibles. Et le tout dernier point, si vous regardez le revenu personnel, le chiffre du revenu personnel, vous voyez pour le mois de janvier, en tout cas et début février, que vous avez aussi un autre élément qui compte, les hausses de salaire, bien évidemment. Et on a encore cette accélération pour ceux qui changent d'emploi. Plus de 10% pour ceux qui changent d'emploi, de hausses de salaire en moyenne. Et le tout dernier point, c'est que vous avez encore des subventions publiques qui continuent aussi d'aider les ménages. Donc finalement, il y a trois coussins de sécurité qui se superposent, ce qui fait que l'économie est quand même plutôt solide.
Ce mur de la hausse des taux, Christopher a donné des explications pour les États-Unis. Il nous touche en Europe et aux États-Unis, on explique qu'il les touche pas parce que vient d'expliquer Christopher.
Oui, il y a, et puis vous l'avez évoqué, il y a quand même la politique budgétaire qui en fait a joué un peu un rôle de compensateur. Ouais. C'est-à-dire que vous appuyez, en fait, vous pilotez l'économie américaine comme un pilote de rallye conduit sa voiture. Vous appuyez en même temps sur le frein et l'accélérateur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les États-Unis ont appuyé sur le frein monétaire en appuyant sur l'accélérateur budgétaire en même temps. Donc vous avez après, il y a risque de tête à queue, mais apparemment, pour l'instant, c'est maîtrisé. Je ne dirais pas quand même que les taux d'intérêt sont assez sans effet. Quand vous regardez l'investissement, non pas en immobilier, mais l'investissement dans les nouvelles constructions, l'investissement des ménages en construction, là, il y a quand même eu... le mur est arrivé. Mais là, il a chuté.
Je suis d'accord, mais d'un point de vue macro...
Ah oui, mais parce que d'un point de vue macro, ce qui s'est passé sur le budgétaire, à partir du moment où on ciblait l'investissement des entreprises, eh bien, il y a eu un effet de compensation. Vous avez, je vais prendre un exemple qui nous a été rapporté hier quand on faisait un événement sur la transition énergétique. Vous avez un acteur qui fabrique des cimenteries, qui nous explique qu'il va équiper une cimenterie aux États-Unis. Vous avez une subvention à hauteur de 500 000... le budget total, c'est à peu près 2 milliards sur cet investissement. Vous avez 500 millions de crédits d'impôt et vous avez 1 million de subventions qui interviennent. Donc, vous avez déjà l'essentiel de l'investissement qui est fait. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les États-Unis siphonnent l'épargne en Europe.
500 millions de crédits d'impôt et 1 milliard.
Et un milliard de subventions. Donc l'essentiel de l'investissement est fait. Donc c'est pour ça que c'est assez facile au total de soutenir un investissement productif qui vient compenser l'effet, la morsure qui existe.
Et nous, le mur de la hausse des taux en Europe, on l'a là ?
Ah oui, nous on l'a, mais et là encore, on le voit de manière, ça a été dit tout à l'heure, hein, on le voit par Louis, on le voit sur le secteur de la construction. C'est là qu'il s'exprime également à plein. Il s'exprime également petit à petit sur les entreprises où on voit qu'on n'a pas du tout la même dynamique en termes d'investissement. L'investissement, il est en train de reculer en Europe. Et là, c'est totalement l'ombre portée de ce qui s'est passé sur les taux. Donc, et on n'a pas de compensation budgétaire.
Oui.
Je pense que ce qui fait la grande différence aussi entre l'Europe et les États-Unis, c'est les gains de productivité. En fait, 80% de la croissance, c'est la consommation. Et aux États-Unis, on voit qu'elle tient et c'est plus forcément le coussin de l'époque du Covid, mais c'est les gains de productivité qui permettent d'avoir des hausses de salaire sans alimenter l'inflation. Finalement, c'est ça le mécanisme vertueux aux États-Unis. Or, en Europe, on a un problème inverse, c'est que on a une perte de productivité. Donc, j'avais dit une fois ici, qu'est-ce que la croissance économique ? C'est tout simplement la variation de l'heure travaillée.
Qui se cite lui-même.
Voilà. qu'est-ce que la croissance économique ? C'est la variation d'heure travaillée. Plus la variation de l'output par heure travaillée. Donc, si vous avez de moins en moins d'heures travaillées parce que la démographie est défavorable et qu'en plus, vous avez un baisse de l'output par heure travaillée, vous avez nécessairement une économie qui
Alors, le thème de la productivité, c'est on l'entend de plus en plus, hein, Christopher. C'est-à-dire que c'est devenu un facteur d'explication du fossé grandissant. Parce que j'ai envie de dire béant qui se fait entre les États-Unis et la zone euro, c'est un gros facteur d'explication.
Ah, c'est un gros facteur, parce qu'effectivement, quand vous avez une productivité qui est quasiment négative, ou en tout cas proche de zéro en zone euro...
Négatif, je crois, non ?
Le dernier chiffre du T4, effectivement, je crois que c'était négatif. Et de l'autre côté, aux États-Unis, où par trimestre, c'est 3-4%, bien évidemment, il y a un différentiel qui va s'expliquer. Mais dans le même temps aussi, en Europe, on en parle beaucoup sur les plateaux, mais vous n'avez pas de politique publique aujourd'hui en Europe. Dans les secteurs où on devrait investir, où on sait qu'on pourrait avoir des gains de productivité.
Donc il n'y a pas d'effet de compensation dont a parlé Denis, c'est-à-dire que d'un côté on a la hausse des taux, mais de l'autre on n'a pas la politique budgétaire expansionniste.
Oui, en ayant malgré tout un déficit assez important. Le seul pays aujourd'hui en Europe qui a un déficit budgétaire élevé et qui est expliqué par des choix de politique publique, c'est la Pologne qui habituellement était vertueuse à cet égard, mais c'est l'un des trois pays européens qui a ses 4% de PIB en défense. Donc ils ont augmenté le budget de la défense. Si vous regardez l'Italie et la France qui sont les mauvais élèves, derrière ça, il n'y a pas de politique publique.
Question très rapide, réponse rapide. La productivité aux États-Unis, pendant des années, on nous a dit stagnation, ça ne bouge pas, et puis d'un coup, c'est en train de faire la une. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Des choix sectoriels. En fait, quand vous regardez ce qui explique le différentiel de productivité entre les États-Unis et la zone euro, c'est le secteur de l'énergie et le secteur de la tech. L'essentiel de la différence de gains de productivité, enfin les deux tiers à peu près sont expliqués par le comportement, ils ont une spécialisation sur ces secteurs que nous n'avons pas. Et à la fin, la productivité, ça compte, parce que c'est ça qui va expliquer l'écart que l'on a en termes de PIB par habitant. Je rappelle toujours ce chiffre, en France, le PIB par habitant en France, c'était 93% du PIB par habitant des États-Unis en 82, on est maintenant à 73%, avec les prévisions que l'on a à 5 ans, on est à 70%. Donc on a un appauvrissement relatif, et l'essentiel, sinon l'intégralité est expliquée par le comportement de la productivité.
Le match est plié sur la productivité entre l'Europe et les États-Unis.
Non, c'est jamais plié. Mais il faut de l'investissement et l'investissement, pour l'instant, il se fait pas ici.
Ouais, donc c'est plié. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour se demander si la bourse est mûre pour une correction, la question d'argent, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Trouve en deuxième partie de l'émission avec Denis Ferrand, avec Stéphanie Moget, avec Louis de Montalembert et Christopher Demby qui en parle tout de suite des marchés. Bon, la fin de la semaine, un peu on n'a pas l'habitude. Chaque semaine, j'avais à peu près le même texte, j'ai été obligé de le changer. Chaque semaine, je disais, est-ce que c'est boule ou une bulle, le marché continue à monter. Bon, il a baissé un peu, on va essayer de comprendre pourquoi. Reste quand même des performances sur l'année. Je vous rappelle qu'on a fait un des meilleurs démarrages d'année. Performance sur l'année, CAC, S&P 500, Nasdaq, et je vous fais un prix global autour de 8%, l'Eurostock 12%, Nikkei 18%, même Shanghai a rebondi et a passé positif. On a eu un petit coup de mou en fin de semaine, mes explications, mais qui ne sont pas raffinées, ces tensions géographiques, hausse des taux des matières premières. 3 des 7 Magnificent ne brillent plus. Tesla surtout qui chute lourdement depuis le début de l'année. On ne parle plus maintenant que des Fab Four, Amazon, Meta, Nvidia ou Microsoft. Puis la semaine prochaine, on va nous sortir les Big Three ou je ne sais pas quoi. Mais la performance, bon, remarquable au premier trimestre. Petit coup de mou en fin de semaine. Louis de Montalembert, vous dites on est mûr pour une correction. Vous dites je m'en fous, moi je regarde que mes valeurs, ça ne m'intéresse pas de regarder le marché.
La deuxième réponse est tentante, mais je vais quand même apporter une petite explication. D'abord, je pense que on regarde les grands indices. Alors, on a une image qui est un peu distordue de la réalité des marchés. Et en fait, il y a beaucoup de poches qui ne suivent pas du tout la hausse qu'on voit sur les marchés dont on parle. Donc, on ne peut pas véritablement parler d'un marché haussier extrêmement important. Alors, pour parler du secteur
moi, je vais
qui m'intéresse,
Louis de
les logiciels, c'est du zéro depuis
le début de l'année. Je vais citer Louis de Montalembert qui dit qu'il faut arrêter de dire que la hausse est sur quelques valeurs. En fait, elle est beaucoup plus large.
Alors, en 2023,
il y a plus de 50 valeurs.
Je vais répondre à Marc Fiorentino. Ça, j'ai expliqué ça en 2023. En 2023, effectivement, il y a 169 valeurs du S&P 500 qui ont fait plus de 20% de performance.
Oui, je vous écoute.
Ce que je dis, c'est bien, vous avez raison, vous allez devenir plus intelligent. Ce que je dis, c'est depuis le début de l'année, c'est pas nécessairement qu'elle est concentrée, c'est qu'elle peut, En fait, il y a beaucoup de bouts de l'économie qui n'y participent pas. Enfin, on parle des small cap et des mid cap depuis un moment en disant ça y est, c'est le moment, etc. Moi, je suis persuadé que c'est le moment et en tout cas, c'est là où on trouve de la très bonne valeur. Ça n'a absolument pas participé. Dans la tech, c'est pareil. La tech, c'est très concentré dans les semi-conducteurs. Mais tout le reste de la tech est au tapis. En fait, on est même en négatif sur toutes les valeurs du soft aux États-Unis.
De façon globale, est-ce que vous diriez que les marchés sont mûrs pour une correction ou pas?
Non, pas particulièrement, sauf s'il y a un risque qui émerge. Là, en fait, il y a un peu une correction parce que, à nouveau, on se crée des petites angoisses sur la politique monétaire. Il s'était passé exactement la même chose au même moment l'année dernière, au moment du trimestre. Donc, je pense que c'est transitoire.
À vos clients privés, vous leur dites quoi? Prudence un peu ou pas spécialement? Non,
on
y va, on continue.
On écrète un peu les lignes qui ont très bien performé, les Schneider, les ASML, les Adyen, enfin, c'est très belle européenne aussi. Néanmoins, moi, je pense qu'on voit depuis le début de l'année, on a un Eurostock 50 qui fait une meilleure performance que les indices de S&P 500. Il était en retard, certes, mais néanmoins, on a, malgré, je vous ai écouté, hein, mais on a quand même sur l'Europe pas que des mauvaises nouvelles, on a quand même des PMI composites qui rebondissent juste récemment, on a aussi des bonnes publications et on voit que les marchés sur certaines nouvelles spécifiques vont permettre à des valeurs très décotées de rebondir. On voit un Ruby qui était très belle valeur, belle rentabilité, 5 de PE, qui fait l'objet tout d'un coup d'une attention d'un Bolloré, qui prend 5% du capital et boum, 5% de plus d'une autre famille Molis, et ça redémarre et on passe de 23 à 35 35 euros. Et des valeurs comme ça, il y en a plein. La Vallourec avec ArcelorMittal qui rentre au capital. Et on voit que tout d'un coup, c'est le catalyseur qui met en lumière une sous-valorisation de toutes ces valeurs et d'un secteur des small caps qui a été ultra déprimé depuis 3, 4, 5 ans pour certaines valeurs. Et on va à un moment, on ne peut plus avoir autant de différence entre les valorisations payées par un private equity qui paye parfois 10, 12 fois les EBITDA quand sur les marchés boursiers, vous avez plutôt des valeurs autour de 5 fois. Donc c'est historique.
Donc vous êtes plutôt confiante. Donc,
moi, je pense qu'on a aujourd'hui, effectivement, ça respire et on a malgré tout des bonnes publications. Vous avez eu la Trigano, vous avez eu des Vusion, vous avez eu des Bilindi, des sociétés plus petites, parce que c'est celles-ci qui publient seulement maintenant, qui publient des très bons résultats, qui ont des bilans solides, qui ont du cash. Donc celles-ci, elles sont armées et elles vont peut-être enfin pouvoir aller faire des acquisitions et glaner de la croissance parce que le private equity a moins les moyens et donc toutes ces valos qui étaient devenues trop chères pour leur amener leur croissance sont aujourd'hui peut-être, vont leur permettre d'accélérer.
Vous partagez ce point de vue ?
Sur l'optimisme ?
Christopher,
oui. Oui, oui. Enfin, il faudra bien sûr que le marché respire. Et oui. Comme tu le disais, il faudra se créer finalement une angoisse.
Ah, si tout le monde cite Louis de Montalembert, il va...
C'est la journée.
Et déjà qu'il se cite lui-même. Si vous le citez, Denis l'a cité, vous le citez, lui se cite. Il reste que si Stéphanie, on est bon là.
Mais se créer une angoisse, effectivement, je pense que c'est la bonne terminologie parce que finalement, les marchés ont besoin de se faire un peu peur. Mais fondamentalement, on est quand même sur des marchés qui sont en situation oligopolistique. C'est que vous avez... Ça a été bien dit, c'est finalement cette bribe des semi-conducteurs avec derrière cela, bien sûr, Nvidia qui essaye de créer une chaîne de valeur sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Nvidia le fait de manière assez intelligente. Ils sont à la fois sur les liens et tout ce qui est circuit au début. Et ils ont fait ça depuis à peu près 5 ans. Ils sont bien sûr sur les puces. Ils sont en train d'essayer d'acheter des plateformes d'intelligence artificielle qui s'adresseraient aux PME parce que c'est la prochaine étape de l'intelligence artificielle. C'est bien sûr le cloud, ça coûte cher. L'intelligence artificielle aussi, ça peut s'adresser aux grandes entreprises, mais il faut que tout le monde puisse le faire. Et donc, la prochaine étape, et je pense qu'Nvidia a une sorte d'entreprise systémique sur le marché aujourd'hui, parce que fondamentalement, ils essayent de faire ce qu'a fait Microsoft au début des années 2000 avec Windows, c'est-à-dire on démocratise l'informatique. Aujourd'hui, c'est démocratiser l'intelligence artificielle, ce qui fait que vous avez une assise de marché, une domination d'NVIDIA qui est bien sûr pas saine, mais qui est liée à la révolution en cours, avec bien sûr derrière cela quelques entreprises liées à ce secteur qui vont en bénéficier. Mais ça fait que derrière cela, de manière ultime, vous avez une appréciation qui est très concentrée du marché et tout le reste du marché, même s'il y a des belles entreprises, des belles opérations, fondamentalement, ça reste concentré autour de cette thématique
semi-conducteur. Mais cette hyper-concentration, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pas simplement le fait des algorithmes, de la gestion.
Ça contribue.
Ça contribue, mais vous dites qu'il y a une réalité économique derrière cette hyper-concentration.
Exactement.
Parce que les gagnants raflamis, c'est ça ?
C'est ça. Vous êtes vraiment dans ce schéma-là et aujourd'hui, et notamment, vous savez, ceux qui se disent, oui, mais les marchés vont chuter, ils mettent en avant Cisco, la courbe de Cisco et de Nvidia, parce que Cisco dans les années 90, effectivement, a eu de nouveaux concurrents qui sont arrivés. Mais justement, Nvidia, où il y a de l'intelligence, et qu'ils se disent on ne peut pas être que sur les puces, qui est notre cœur de métier, on va créer la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Ils ont l'argent, ils ont la technologie, les hommes, les femmes pour le faire. Donc, bien sûr, ça crée derrière cela d'autres sociétés qui ne sont pas en mesure de suivre, parce que ça coûte cher l'intelligence artificielle. Je sais bien que tout le monde en parle, mais une entreprise qui veut investir dans ce domaine-là, il faut qu'elle investisse beaucoup, et ça coûte beaucoup d'argent et de temps, et mobiliser les équipes. Et donc, vous avez finalement cette situation qui est complètement normal dans une phase de révolution industrielle. Pour moi, le risque aujourd'hui, sur du long terme, je voudrais dire, il y aura de la respiration du marché. Le risque, c'est si demain on a, aux États-Unis une vraie loi antitrust qui s'adresse à ces entreprises-là, comme on a pu le voir par le passé.
Je ne crois pas une seconde.
Et moi non plus. Si vous regardez...
Parce qu'on est en guerre avec la Chine et donc ils ne vont pas décimer leur propre bataillon.
Vous ne faites pas harakiri dans cette période-là. Donc c'est complètement logique, ce qui veut dire que cette situation, elle va perdurer de mon point de vue, et notamment cette situation oligopolistique sur le marché, quelques gagnants qui raflent la mise.
Denis Ferrand, vous avez une opinion sur la bourse ou...
J'ai pas une opinion qui sera aussi aiguisée que celle que vous pouvez avoir, vous tous sur le plateau, vous compris, bien entendu, Marc. Il faut quand même bien vous citer un petit peu.
Il essaye de me rapprocher.
Non, mais moi, je vais aller regarder d'un point de vue macro, avec effectivement, de toute façon, ce qui se passe aussi sur les taux d'intérêt, avec ces messages qui sont un petit peu plus alambiqués autour des taux d'intérêt, notamment qui ont été exprimés sur les États-Unis. On voit bien qu'il y a quand même quelques poches d'inflation qui résistent. Le dernier kilomètre semble être long et il y a quand même aussi un petit retour macro qui est en toile de fond de ce qui se passe sur la bourse probablement.
Est-ce qu'on peut dire, juste puisque vous parlez des taux d'intérêt, c'est très intéressant, est-ce qu'on va vers une pontification de la courbe, c'est-à-dire, j'explique pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire une baisse des taux courts par les banques centrales, ça c'est décidé par les banques centrales, et puis des taux plutôt long terme, 10 ans et plus, qui reste à des niveaux relativement élevés du fait du niveau d'endettement général.
Déjà, avant de parler de pontification, il faudra déjà sortir de la situation d'inversion. C'est déjà, là, on est dans une situation, en particulier aux États-Unis, où l'écart entre les rémunérations sur les échéances courtes et sur les échéances longues, eh bien, cet écart, il est positif. C'est beaucoup plus rémunérateur à court terme qu'à long terme. Donc, il y a déjà, dans un premier temps, à faire l'inversion. Mais c'est vrai que, logiquement, à un moment, il y a la prime de terme qui doit revenir. Et on n'y est pas encore.
Et ça sera plutôt favorable
Oui, je pense qu'on a aujourd'hui des milliards en monétaire, hein, parce que les gens ont été très opportunistes, ils ont vu ces taux hauts et plutôt effectivement à court terme. Vous avez aujourd'hui à 3 mois 4%, quand sur un an c'est plutôt autour de 3,60. Donc il y a déjà rien que sur très courte période des gros écarts. Donc je pense qu'on a là une réserve de performance et de soutien des marchés avec une baisse des taux à venir qui permettra un arbitrage du coup de ce monétaire vers des classes d'actifs plus
rémunérateurs. Tout ce pognon va encore engraisser les rentiers.
C'est fou, hein.
Allez, le placement de la semaine. Louis de Montalembert. Dans ce contexte actuel, où faut-il placer son argent ?
Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'on soit dans un retournement de marché. Je pense qu'on est encore dans un bull market qui est encore pas du tout à maturité, qui va maturer. Donc, de manière assez logique, même si vous allez me dire que je dis toujours la même chose, je pense que il faut s'orienter vers les actions. Néanmoins, je voudrais souligner un point, c'est-à-dire que si on reste dans l'environnement économique qui se dessine aujourd'hui du fameux soft landing, avec un moment ou l'autre un peu plus de liquidité sur les marchés parce qu'on a des baisses de taux, on est au mieux dans le meilleur des mondes. Mais néanmoins, il y a quand même un gros risque dont j'ai déjà parlé et je pense qu'il est toujours là, c'est celui de l'immobilier commercial aux États-Unis mais aussi en Europe. Je ne suis pas sûr que le système bancaire ait digéré les ardoises qui vont émerger de ce système. Aux États-Unis, c'est quand même 2100 milliards de dollars, c'est à peu près 8% du PIB, essentiellement porté par les banques régionales, donc c'est 4000 banques qui en plus financent l'écosystème des PME aux États-Unis. Donc moi je suis toujours assez prudent, c'est-à-dire que j'ai une tendance à être tout le temps en action. Aujourd'hui je garde une petite pelote de côté que j'appellerais de la poudre sèche pour les moments un petit peu difficiles.
Que vous placez où alors?
Que je me sens bien obligé de placer en monétaire.
Eh oui, j'ai réussi à lui faire dire.
Mais de manière générale, aujourd'hui, je pense que effectivement, quand on regarde les small cap, il y a vraiment une opportunité. Je regardais William Higgins dans l'émission la semaine dernière. Je pense que voilà, une sorte de stratégie de buy and hold. Aujourd'hui, on rentre à un prix qui est tout à fait favorable. Dans beaucoup de segments de la tech, on retrouve des multiples qui sont très dépréciés aujourd'hui parce que comme il y a des fortes croissances, en fait, les cours n'ont pas suivi. Et donc, les actions, c'est quand même un truc sympa.
Stéphanie, c'est quoi pour vous le placement de la semaine? Pas une action, mais une catégorie.
Je ne vais pas contredire Louis, parce que effectivement, je partage son point de vue sur le fait qu'on a encore des belles opportunités, notamment sur les small caps. Merci. Mais voilà, tout dépend de l'horizon qu'on a devant soi. Hein. Si on sait qu'on va avoir besoin d'argent dans un an, deux ans, eh bien évidemment qu'il faut sécuriser une partie de ses bénéfices.
Mais par exemple, à 5 ans,
je pense qu'on a aujourd'hui. C'est difficile, parce que justement, on a sur la vision sur les taux, on est quand même avec des taux qui sont assez hauts, ça va baisser. Je ne sais
aujourd'hui pas. Dans votre gestion privée, ils ont plutôt des portefeuilles équilibrés
ou plutôt des portefeuilles dynamiques, mais néanmoins sur la partie équilibrée, moi j'opte plutôt soit sur des comptes à terme à 6 mois 1 an qui permettent de sécuriser un taux.
Ils sécurisent un taux 6 mois 1 an, mais au bout d'un an vous n'aurez rien sécurisé.
Je suis d'accord. Tout à fait. Mais néanmoins, je pense qu'aussi, on a à côté de ça, voilà, quand on construit un portefeuille, on a des valeurs avec des beaux dividendes, hein, fameuses rentes dont on parlait tout à l'heure. Hein, vous avez tout le secteur de l'énergie hein, qui, effectivement, paye des très bons dividendes et qui sont, à mon avis, source encore de beaucoup de croissance. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a les actions qui restent des bons leviers, qui vont être portées par des rachats d'actions massifs. Il y a plus d'un trilliard qui sont engagés pour 2024. Tout ce monétaire qui arrive et qui peut à nouveau être une source de
alimenter
soutien.
Alimenter tout ça. En tout cas, on retiendra que Louis de Montalembert a conseillé aux gens qui nous écoutent d'investir dans des fonds monétaires. Donc vous retiendrez ça. Hein. Louis de Montalembert, fonds monétaires. Allez, le top ou le flop de la semaine. Christopher Demick.
Ce sera le Japon, le marché boursier japonais.
Top ou flop?
top, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Voyons. qui a connu la semaine dernière le plus important flux de capitaux en provenance des marchés étrangers sur le marché boursier japonais depuis octobre 2021. Et on sait depuis à peu près un an et demi, il y a un renouveau du marché boursier
japonais. Incroyable. Incroyable ce marché qui a été vraiment le marché dont personne ne voulait. Ouais. Le dernier haut, je l'ai vécu, c'était en décembre 89. Et là, c'est devenu coqueluche. On a l'impression que c'est un pays émergent, le Japon.
Et ça va continuer parce que les rachats d'actions aussi au Japon expliquent en partie la performance. Vous avez des entreprises qui ont énormément de cash, elles investissent. On a eu les plus importantes hausses de salaire depuis plusieurs décennies. Donc il y a un contexte qui est très favorable.
C'est incroyable.
C'est un marché qui est complètement à l'écart du reste du monde. Donc on ne peut pas créer de lien. Et on voit que les flux entrants sont quand même
massifs. Il est à l'écart du reste du monde, mais c'est un indicateur très intéressant parce que d'un point de vue démographique, c'est un peu ce vers quoi on tend. Et on s'était dit que finalement, une économie avec une démographie morte, c'est un pays mort. Et ils nous l'ont démontré pendant 20 ans. Et puis, il y a un jour où finalement, ça joue plus.
C'est incroyable. Et on voit générationnellement, que les comportements de consommation, d'investissement et d'épargne des nouvelles générations au Japon aussi ont complètement changé. Donc, c'est vraiment un laboratoire assez intéressant parce que d'ici quelques décennies, c'est ce qui nous interviendra en
pour la démographie. Votre top ou flop est beaucoup plus intéressant que celui de Louis. Louis.
Je suis étonné qu'il vienne encore.
Oui, moi aussi. Presque, hein.
Mais moi aussi, j'hésite à chaque fois.
Moi, c'est la consommation énergétique de l'IA générative. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les traitements de données dans le monde consomment à peu près 2% de l'énergie mondiale. Il est prévu à horizon 2030, si on continue sur la tendance actuelle, qu'on soit à 7,5%. Et 7,5%, c'est presque une multiplication par 5 ou 6 de la consommation énergétique. Et en fait, effectivement, l'IA générative, qui est une révolution massive et qui va changer nos vies, pas uniquement par Nvidia, mais moi je pense plus par le logiciel qui va entraîner des gains de productivité massifs, on risque d'avoir un problème sur la production d'énergie. On voit que Amazon a signé des contrats à terme pour 2,5 gigawatts d'électricité avec un producteur de nucléaire. Et donc, est-ce que l'IA générative, à un moment ou l'autre, va rentrer en concurrence avec les particuliers sur le marché de l'électricité, ou est-ce qu'on va produire beaucoup plus d'électricité suite au prochain numéro ?
Stéphanie, le top ou flop de la semaine ?
Oui, je reste dans la lignée de l'énergie, hein, parce qu'effectivement, mon top, c'est Total, qui est sur ses plus hauts historiques. On est à 67,30 euros aujourd'hui. Ils ont fêté leurs 100 ans cette année. Patrick Pouyanné a donc donné à ses salariés, à tous ses salariés, à 100 000 salariés dans le monde, 100 actions gratuites, à partir de condition de rester dans le groupe encore un petit moment. Mais voilà, et donc, on a cet acteur qui est à la fois vraiment détesté dans la rue parce que c'est encore associé à l'Erica.
Détesté dans la rue, pas que détesté dans la rue, détesté aussi par les gérants.
Par les gérants, parce qu'effectivement, toutes ces...
Il y a plein de gérants qui ne peuvent plus le mettre en portefeuille.
On est d'accord. Et en même temps, quand on regarde Total, un tiers de ses investissements va vers le renouvelable et ils sont aujourd'hui le plus grand investisseur dans l'énergie solaire. Donc c'est l'équivalent de 22 centrales nucléaires en solaire aujourd'hui exploitées par Total. Donc voilà, on a besoin de cette énergie. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a eu un sous-investissement massif toutes ces dernières années pour le pétrole et le gaz. On voit bien que chez SPI, chez Vinci, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui ressortent d'appels d'offres pour remettre en route des nouvelles plateformes, des nouveaux sites en offshore, onshore. Donc
on est sur quel type de rendement pour le dividende ?
Total, alors ça vient de bien monter, mais on est autour de 5% et on n'est jamais à l'abri de quelques distributions exceptionnelles dont ils sont assez coutumiers. Et c'est vrai qu'ils ont surperformé depuis sur longue période BP, Eni, Shell, 5, 10, 15 ans, et c'est incomparable de dividendes réinvestis Total. Donc,
Oui, une montée à l'envers. Un Total, c'est une valeur, vous dites quoi sur Total ? Vous dites oui, pourquoi pas ? Enfin, c'est pas
À titre personnel, oui, tout à fait. Ouais. En fait, ce dont vous parliez tout à l'heure, les gérants ne détestent pas Total. C'est le régulateur qui déteste Total, qui force les gérants à faire n'importe quoi avec l'ESG. Mais oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une carence de pétrole, que finalement, la transition énergétique va mettre plus de temps que prévu, donc c'est évidemment, et on parlait de rubis tout à l'heure, moi j'en ai acheté le jour au Bolloré et rentré dedans, c'est aussi des produits pétroliers.
Denis ?
Enveloppe l'influence géopolitique américaine. Cette semaine est sorti un sondage que fait chaque année l'Institute for Southeast Asian Studies, donc qui interroge des décideurs dans les pays de l'ASEAN, donc les pays d'Asie du Sud-Est, sur quel camp qu'ils choisiraient s'il devait y avoir une confrontation entre évidemment la Chine et les États-Unis. Et l'année dernière, donc c'était à 61% que les dirigeants de l'ASEAN, enfin des décideurs, c'est pas des politiques, mais des décideurs dans les administrations femmes dans les entreprises. À 61%, ils votaient pour les États-Unis. À 49% cette année, ils votent les États-Unis.
Ah ouais ?
Donc il y a un basculement qui est en train de se faire. Est-ce que c'est une inquiétude et que l'on se dit que le voisin qui est quand même beaucoup plus près est peut-être plus géant, il vaut mieux se sentir proche. Mais en tout cas, ça reflète peut-être une forme de basculement.
C'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé à Hong Kong, avec les menaces sur Taïwan, les gens...
Exactement, c'est assez surprenant. Surtout qu'il faut se rappeler que l'ASEAN, c'est une construction américaine qui a été mise en place au moment de la guerre du Vietnam pour contenir justement l'influence.
Nous, on le savait, mais dites-le à Louis, parce qu'il ne le savait pas. Ouais. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants que vous attendez avec impatience. Et on a en numéro 1, Pascal Sévy, 11,6%. En 2, Pierre Chang, 8,6%. En 3, Eric Blaine, 8,1%. Et maintenant, j'ai besoin d'une musique qui fait peur. Louis, je vais vous donner votre portefeuille. Vous allez me dire ce que vous achetez ou que vous vendez. Et puis, vous me ferez une recommandation devant tous les Français. Snowflake.
On garde.
Bill.com.
On garde.
Monday.
On garde.
Elastic.
On garde.
MongoDB.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète, oui?
Je voudrais juste faire un point sur ce qui se passe. C'est qu'en fait, ça n'a pas bien performé depuis le début de l'année parce qu'on est vraiment dans l'instant hardware de l'IA générative. Et en fait, là, c'est que des entreprises qui ont des revenus récurrents, donc ça met plus de temps à se construire. On va rentrer dans l'instant software de l'IA générative, mais on a un début d'année qui ressemble d'ailleurs au début d'année de l'année dernière et qui va très très bien finir. Donc, je vais continuer dans cette veine.
D'accord.
Et je vais investir dans GitLab.
Dans
GitLab.
OK.
GitLab, c'est une plateforme de codage sur le cloud qui est le concurrent de GitHub qui appartient à Microsoft. Il faut savoir que
ils ne sont pas posés beaucoup de questions pour les noms des boîtes.
Non, mais parce que c'est des entreprises qui travaillent sur du Git, et qui est une formule de code. Donc c'est le Git. Voilà. Okay. Et comme ça, vous aurez appris quelque chose pendant cette émission.
C'est pour ça que je viens.
Toujours est-il que c'est une entreprise qui est clé parce que aujourd'hui, finalement, toutes les entreprises sont appelées à devenir technologiques à un niveau ou à un autre. Et GitLab est l'un des tech enablers, c'est-à-dire de sociétés qui permet aux entreprises de devenir technologiques. Il faut savoir que leurs principaux clients ne sont pas nécessairement les gens de la tech. 76% des Fortune 500, c'est-à-dire les FedEx, les Coca de ce monde, sont clients de GitHub. 54% sont clients de GitLab. Donc, ce sont des entreprises qui sont clés. D'ailleurs, Google a mis quelques billes dans GitLab, donc on peut se poser des questions sur l'avenir. Toujours est-il que c'est une entreprise qui fait 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, 8 milliards de capitalisation, qui est profitable depuis les deux derniers trimestres, croissance à peu près de 35%, donc c'est vraiment très intéressant.
Allez, la musique qui fait peur. Stéphanie Moget, vous nous aviez dit l'autre fois quand vous êtes venue qu'il fallait acheter du L'Oréal. Est-ce qu'on garde ?
Oui.
Du Vision Group, c'est ex-SES Imagotag.
Excellent résultat, on garde.
Du Voyageur du Monde.
On attend les résultats, mais ça va être bon. On garde.
Bon, et qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, on achète, vous allez dire que je suis obnubilé par l'énergie, mais on va acheter du Ruby.
D'accord.
Pour parler justement de...
Alors, dites-nous ce qu'ils font.
Alors Ruby, ils font de la distribution d'énergie, beaucoup dans les zones Caraïbes, Afrique. Ils ont récupéré auprès des majors pétrolières toutes les zones qui leur paraissaient moins intéressantes. Et ils vont aussi fournir du...
C'est gaz, non ? Ou c'est tout ?
Non, c'est toute énergie, enfin pétrole, gaz, et aussi pour dans les Caraïbes, notamment pour tous les aéroports, etc. Ils fournissent le carburant. Et ils ont aussi une partie renouvelable, ils ont investi dans Photosol, le photovoltaïque aussi. Et ils avaient une activité dans les terminaux de stockage, énergie, agriculture, qui viennent de désinvestir. Donc on a sur Ruby une bataille boursière qui s'annonce, à mon avis, parce qu'on avait une valeur qui était très décotée, qui avait été une des chéries de la bourse.
Oui, c'était vraiment le truc
qui était dans la valeur
tous les
que tout le monde avait en portefeuille.
Il y avait beaucoup de rendements, c'est ça ?
Il y a eu exactement. Alors il y a eu d'abord des années difficiles avec le Covid, et néanmoins, il y a un dividende qui est exceptionnel, parce que vous avez aujourd'hui presque 8% de rendement sur Ruby, et donc Bolloré, qui s'est invité au capital la semaine dernière, et ça a été suivi assez de manière surprenante par deux autres franchissements de seuil de 5%. Donc on a aujourd'hui au capital Dassault, Bolloré, la famille Molly, c'est un Allemand, monsieur Schumann, qui s'est annoncé hier. Donc que va-t-il se passer ?
Les actionnaires.
Alors les actionnaires, ils sont. Alors c'est la particularité de Ruby, c'est que c'est une commandite, et les commandités ont très peu de capital. Ils ont moins de 3% du capital, et ce sont des familles, les familles Gobin et Ryu, qui sont là depuis longtemps. Et bon, donc que va-t-il se passer ?
Non, mais donc si c'est une société par commandite, il ne peut pas.
Alors on a quand même un Bolloré qui est très expert de ce sujet, qui a déjà réussi à faire casser cette structure sociale. Donc on attend, mais je pense qu'en attendant, vous avez une société pas chère avec des des bons fondamentaux, un excellent dividende et que ça permet du coup de, en tout cas, de rentrer en portefeuille une valeur solide et avec, à mon avis, un potentiel.
Vous pensez que la stratégie d'un Bolloré, c'est de prendre le contrôle du...
Alors, je suis pas sûr. Je pense que c'est un très bon opportuniste financier. Il a récupéré 6 milliards de cash en vendant ses actifs. Donc, ça peut être un très bon placement. D'ailleurs, depuis qu'il a acheté, effectivement, ça a gagné 5 euros. Mais je pense qu'on a encore du grain à moudre sur cette valeur, vraiment.
Vous l'avez acheté à titre perso, pourquoi, ouais. Louis?
Bah, parce que Bolloré, effectivement, un gars malin, c'est une boîte avec un très bon rendement. C'est quand même une entreprise qui est très bien gérée. Ça faisait trop longtemps qu'elle était au tapis. Et comme je pense que c'est le moment des small caps, effectivement, je me suis dit pourquoi pas un peu.
Très bien, merci. Donc retenez bien, acheter des fonds monétaires, c'est ce qu'a dit Louis de Montalembert, si vous avez une chose à retenir de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous voir et nous revoir en replay et en podcast.